Allô, passez-moi Amber. Amber. Amber, la ville d'Amber. Vous êtes sourd ou quoi?
Bonjour à tous, bonjour à toutes, chers auditeurs, chères auditrices. Bienvenue sur les ondes de Radio des Super.
Aujourd'hui, c'est le club manga de la médiathèque d'Ambert, aux commandes de la Radio Super, la Radio d'Ambert.
Nous sommes là pour interviewer des artistes locaux et internationaux. Nous accueillons aujourd'hui Yann Bern et Kanako Mitsuzumi en direct sur Radio Super. Ils sont venus nous parler de leurs divers projets Treasure Island, Yamasain, mais aussi du Japon, de leurs arts, mais aussi de tous leurs voyages.
Bonjour.
Et autour de la table, en direct de la médiathèque, nous avons réuni, pour cette interview, les plus grands et les plus grandes fans de manga du livre Adva Forez avec Nathan, Mao et Mélissa sur la partie artistique. Sur la partie musique, c'est Joshua qui pose les questions, mais aussi Alix, Arsène, Clara et Adam.
Quel style de musique faites-vous ?
Alors, pour Treasure Island, on fait ce qu'on appelle de la pop électronique. Et pour les autres projets, on fait des styles très différents.
Mais pourquoi avez-vous choisi Treasure Island comme nom de groupe ?
C'est plutôt pour l'image. Il n'y a pas de référence particulière au roman L'île au trésor de Robert Louis Stevenson. Il n'y a pas de référence non plus à l'univers des pirates et tout ça. C'est plus pour les images. Quand on pense à une île au trésor, on imagine un lieu un peu à part du monde, un lieu un peu magique, des aventures, ce genre de choses.
Est-ce qu'il y a une musique traditionnelle qui vous inspire ? Si oui, laquelle ?
Alors, on aime tous les deux beaucoup la musique traditionnelle d'Okinawa. Okinawa, c'est un groupe d'îles qui est un peu à l'écart du Japon, mais qui fait partie du Japon. C'est presque tropical, on va dire. Et il y a une musique qui est assez différente, qui est assez joyeuse, qui ressemble à la musique japonaise, mais qui est un peu plus à la cool, on va dire. Yamasan, c'est notre nouveau duo. Pour l'instant, on ne fait pas Treasure Island depuis quelques temps, tout simplement parce que ça nous demandait beaucoup trop de temps, et on a deux petits-enfants qui nous en demandent encore plus. Yamasan, c'est notre nouveau projet, donc, qui est un petit peu différent. Ce n'est pas un projet de pop, c'est de la musique plutôt expérimentale, on va dire. Et c'est un projet aussi qui est un peu multimédia, donc il y a une partie visuelle qui est très importante. C'est pas comme un concert où on voit un groupe jouer, c'est la partie visuelle, sans elle il n'y a pas vraiment de projet. Donc c'est notre nouveau projet en duo. Le duo sans l'un ou sans l'autre, le projet ne marche pas non plus. Kanako fait de la calligraphie et moi je m'occupe de la conception du son, et puis on performe tous les deux pendant le spectacle. Donc c'est encore une fois en duo.
Vous avez toujours fait des albums tous les deux ensemble ?
Oui, on a toujours fait des albums ensemble pour Treasure Island, en tout cas. On en a fait 4, je crois. Et pour Yamasan, c'est pas vraiment pertinent de parler d'albums, parce que c'est pas... Quand on pense à un album, on pense à une succession de chansons qui sont organisées avec un ordre, peut-être une intro, etc. Yamasan, c'est pas du tout la même chose. Du coup, c'est déjà prévu comme un spectacle, donc quelque chose qui se fait en direct. On n'a rien enregistré en studio, et je pense pas qu'on enregistrera en studio. Donc les enregistrements qu'on diffusera, ce sera que des enregistrements de concert, a priori. Donc c'est un petit peu difficile de parler d'album, mais sinon on n'a pas collaboré sur d'autres albums. Les autres projets que vous avez pu écouter, où on est l'un ou l'autre, on ne les a pas fait ensemble. C'est surtout moi, ou alors il y a d'autres gens carrément avec qui j'ai collaboré.
Qu'est-ce que vous faisiez avant ?
Qu'on faisait avant ? Il n'y a que moi qui parle pour l'instant, Kanako n'ose pas intervenir. Qu'est-ce qu'on faisait avant de venir ici ? Alors, c'est compliqué. On a une longue histoire. Avant, on habitait au Japon, il y a 10 ans, et on est venu en France. Ça fait 10 ans qu'on est en France. Mais on se connaît depuis plus longtemps que ça. On n'a pas fait que de la musique. On n'est pas tous les deux des artistes dans le sens traditionnel. On n'est pas des gens... On ne dit pas juste on est musicien ou artiste. On fait différentes choses. Notamment, moi, j'ai été professeur de langue, j'ai été éducateur pendant 10 ans, on a fait différentes choses. Et depuis qu'on est en France, on a fait surtout de la musique, mais pas que. Et on a surtout fait des enfants.
Comment ça a changé votre travail d'être à deux ?
D'être à deux, alors le travail qu'on fait ensemble, la musique en tout cas, c'est toujours une collaboration, mais on ne fait pas du tout la même chose. Kanako, elle ne se perçoit pas comme une musicienne avant tout, alors que moi, oui. Et du coup, on essaie de trouver un compromis, un juste milieu entre ce qu'on aime faire tous les deux, comment on le fait, nos goûts, etc., et aussi nos possibilités, ce qu'on sait faire techniquement. Et on essaie de trouver quelque chose qui nous convient à tous les deux. Et puis aussi, il y a une histoire de courage là-dedans. Il faut essayer de faire quelque chose dont on est fier, mais parfois, ça demande pas mal de courage. Voilà, donc en tout cas, ça a changé de cette façon-là. C'est pas comme jouer avec deux personnes qui se croisent parce qu'elles ont exactement les mêmes types d'intérêts. C'est un compromis un petit peu spécial.
Ça fait combien de temps que vous faites de la musique ?
Alors, de la musique en groupe, j'imagine.
Comme la musique, j'ai joué un piano depuis que j'étais petite, donc c'était toujours, mais tous les deux, on avait, il y a 16 ans.
À peu près.
Oui, à peu près.
Et moi, ça fait 25 ans que je fais de la musique, plutôt en groupe. Donc avant qu'on se rencontre. J'ai eu beaucoup de groupes, mais maintenant, c'est surtout avec Kanako.
C'est quoi le but de vos musiques ?
Ah, le but de vos musiques. Alors, c'est un peu difficile comme question. Est-ce qu'il y a un but à la musique ? Il y a des gens qui écoutent de la musique juste pour se divertir. Il y a des gens qui écoutent de la musique en arrière-plan quand ils font du sport ou quand ils dorment, j'imagine, peut-être même. Pour moi, la musique, c'est quelque chose de magique que je refuse de traiter comme quelque chose de banal, même si la musique est souvent très banale. Donc j'essaie de faire quelque chose qui fasse plaisir avant tout, mais aussi qui soit peut-être étonnant, surprenant, qui fasse un petit peu réfléchir ou penser à des trucs un peu nouveaux auxquels on n'avait jamais pensé. Qui suscite aussi des réactions, parce que la musique, c'est quand même quelque chose qu'on ressent dans son corps. Donc, toutes les musiques que je fais, elles sont très différentes, mais c'est un petit peu l'idée, pour tout en tout cas, le fil conducteur.
Pour moi, notre musique représente notre relation. Donc, j'ai hâte de partager encore plus de moments joyeux avec toi, comme... C'est la but.
Combien de concerts avez-vous fait en tout ?
Alors, des concerts ensemble, en tout cas, on en a fait... les premières années qu'on a commencé à jouer ensemble, on n'en a pas fait tant que ça, parce qu'on travaillait sur d'autres choses. Comme j'ai dit, moi, j'étais prof, et Kanako, elle faisait d'autres choses. On a vécu au Japon, c'est là où on s'est rencontrés. On a vécu en Angleterre, on a revécu au Japon. Et on n'a pas toujours pu faire que de la musique. Donc au début, on en a fait une poignée, on va dire, quelques-uns par an. Et depuis notre arrivée en France, on en a fait beaucoup plus. On a fait carrément des tournées entières où on a fait plusieurs, je ne sais pas, 2 semaines par exemple de concerts à la suite. Alors combien ? J'aurais du mal à me rappeler exactement. Allez, 100, un peu plus. C'est pas beaucoup, hein. La plupart des musiciens, ils sont beaucoup moins paresseux que ça.
Dans quel genre de lieu jouez-vous ?
Alors, on a beaucoup joué dans des lieux un petit peu atypiques, c'est-à-dire qui sont un petit peu spéciaux. On a beaucoup joué dans des squats. Alors, les squats, c'est des lieux qui sont occupés souvent illégalement par des gens, justement, des espaces un petit peu abandonnés. Donc, ça peut être des anciennes usines. Par exemple, on a joué dans une ancienne banque. On a joué dans des anciens locaux d'entreprise. Et ces lieux, souvent, ils sont mis en valeur par des gens, des artistes, des musiciens, toutes sortes de gens. Parfois, il y a des gens qui y vivent, parfois pas. Donc, on a beaucoup joué dans des lieux comme ça, mais bien sûr aussi dans des bars, des salles de concert, des cafés.
Vous avez fait de nombreux concerts dans de nombreux pays. Est-ce que vous avez été influencé par tous ces voyages ?
Alors, on a surtout joué dans les pays où on a vécu. Donc, on a vécu en Angleterre, on a vécu au Japon, et puis bon, maintenant en France... on a un petit peu joué, on a joué en Suisse, on a joué en Belgique, dans d'autres pays, mais surtout dans les endroits où on est resté vivre. Ça prend du temps souvent d'organiser des concerts, de trouver des gens qui sont intéressés, de rencontrer des gens avec qui on se sent sur la même longueur d'onde. Donc c'est surtout comme ça que ça marche, quand on n'est pas très connu en tout cas.
Est-ce qu'il y a un pays qui vous a particulièrement touché ?
C'est...
Le Portugal,
oui.
C'est ce que tu voulais
oui.
dire, hein, on est d'accord. on est allé au Portugal ensemble deux fois, et puis moi j'y étais déjà allé, et on a fait vraiment de belles expériences là-bas, mais c'était vraiment en voyage, on n'a pas fait de concert là-bas. C'était prévu une époque, et puis ça ne s'est pas fait, mais en tout cas, peut-être un jour.
Quel pays avez-vous visité, et quel intérêt vous trouvez de voyager autant ?
Quel pays on a visité ? Oh là là, je ne sais plus. pas tous les pays. C'est plus, il y a des continents sur lesquels on n'est pas allé. On est allé ni en Afrique, ni en Amérique du Sud ou du Nord. Hein. On n'est pas allé. On n'est jamais allé. Il y a quoi d'autre comme continent ? Là où il y a l'Australie et tout ça. L'Océanie, on n'est jamais allé. On n'est pas allé ni au pôle Nord ni au pôle Sud. Sinon, on a surtout joué en Europe, au Japon. On est allé dans différents pays d'Asie. Et puis, voilà. Ça répond à la question. Il y avait une deuxième partie, il me semble.
Oui, quel intérêt vous trouvez de voyager autant ?
Ça, j'aurais du mal à répondre à la question. Hein. Tu aimes voyager, toi, Kanako ?
Oui.
Oui.
J'aime bien.
Mais quel est l'intérêt de voyager pour toi ? C'est pas facile. Hein.
Oui, c'est pas facile.
Comme je dis, il y a plusieurs façons de voyager. Il y a des gens qui voyagent vraiment pour découvrir un pays ou pour se détendre. Et puis, il y a des gens qui vont pour une raison spécifique.
Pour moi, quand j'étais petite, il n'y a pas de... C'est que japonais autour de moi. Et la première fois que j'ai rencontré un étranger, c'était quand j'étais à collège. Donc, je voulais découvrir plus et rencontrer plus de gens. Donc, voyager, c'est pour ça.
Avez-vous voyagé dans des pays avec des températures extrêmes ?
C'est le Japon.
Il fait très très chaud et humide l'été au Japon. Très 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 chaud, 45 degrés à peu près, et très humide. Quand on sort de l'avion au Japon, on arrive à l'aéroport et les cheveux ils font comme ça, paf, comme une afro. Ah, sauf ceux qui ont déjà une afro, ça fait encore plus une afro.
Dans quelle langue aimez-vous chanter et dans quel style ?
Pour Treasure Island, on chante en anglais principalement, en français et en japonais. Pas vraiment d'autres langues, à part des fois un petit peu du charabia, on va dire. et on aime bien chanter dans les trois langues. Le but de Treasure Island, c'était ça aussi. C'était vraiment, dès le début, de mélanger les influences, d'avoir un groupe avec un garçon, une fille, enfin, ou un homme, une femme, comme on veut. Et aussi de mélanger les langues. Parce que pour nous, c'est ce qui nous unit tous les deux. C'est le fait d'avoir vécu dans différents pays, d'avoir partagé notre quotidien avec différentes langues. Donc c'est une des choses les plus importantes.
Nous, on ne comprend pas trop ce que vous chantez. Est-ce que vous pouvez nous dire sur quel sujet vous chantez en général ?
Alors là, nous non plus, on ne comprend souvent pas bien ce qu'on chante. Comme je disais, un des sujets principaux, c'est vraiment, on parle souvent d'être perdu en fait. Il y a pas mal de chansons, le thème, alors c'est plutôt des thèmes, c'est une façon d'écrire. On écrit de façon un petit peu surréaliste, c'est-à-dire avec des images un petit peu étranges qui interpellent. On mélange du coup les langues, donc en plus, à moins de parler anglais, français, japonais, il y a plein de gens qui ne vont pas comprendre. C'est aussi un petit peu pour mettre l'accent sur le fait que la musique, même si on ne comprend pas, on peut quand même l'apprécier. En tout cas au niveau des paroles et voilà, après les trois langues ça change un petit peu, mais pour de la pop, pour la musique pop, pour moi il n'y a pas d'énorme différence en tout cas.
Vous chantez en anglais mais aussi en japonais et en français, est-ce que vous parlez toutes les langues couramment ?
Oui.
Ici, c'est le Club Manga, donc nous voulons savoir si vous avez déjà fait des musiques d'opening ou de générique pour des mangas ou animés.
Non.
Non, jamais.
Est-ce que vous lisez des mangas ?
Oui, je vais répondre en premier parce que la réponse de Kanako est peut-être plus intéressante que la mienne. Moi, je suis un petit peu plus vieux que vous, je pense, hein. Donc les mangas sont pas, quand ils sont arrivés dans ma vie, c'était quand j'étais petit, c'est surtout par les dessins animés. C'était assez rare de trouver des mangas par exemple dans une médiathèque ou une bibliothèque. Moi, c'était vraiment ma génération, le début de ça. Pour vous, je pense que ça fait certainement partie de votre quotidien. On en trouve partout, il y a des magasins de mangas à peu près partout, on peut en trouver en ligne. Je vois qu'il y a pas mal d'entre vous qui ont des t-shirts ou des vêtements avec des personnages de manga, enfin, c'est un truc qu'on voit fréquemment. Donc pour moi, c'est une génération un peu différente, les années 80. J'ai connu des mangas des années 70-80, Dragon Ball, ça a été un gros truc, ça vous connaissez. Est-ce que vous connaissez Cobra ? Est-ce que vous connaissez... Ouais, ok, il y en a qui connaissent. Est-ce que vous connaissez... en France, on connaît Albator, Captain Harlock. En japonais. Donc ça, c'est des vieux trucs. Et puis sinon, Gegege no Kitaro. Alors ça, c'est encore plus vieux. Donc il y a différents mangas. Maintenant, moi, je ne me tiens pas trop au courant. Vous en connaissez certainement beaucoup plus que moi. Et Kanako, peut-être, a autre chose
oui,
à dire.
Moi, j'ai grandi avec manga aussi. Et comme Sailor Moon, One Piece, Hunter x Hunter, Death Note, Nodame Cantabile.
On a une petite différence d'âge avec Kanako, oui. Pas énorme, mais comme les mangas japonais sont arrivés après coup en France, moi j'ai connu ceux qui sont plus vieux, donc souvent Kanako ne les connaît pas. Et moi je ne connais pas non plus celle qu'elle a connue à ce moment-là.
Est-ce qu'il y en a un qui vous inspire ou qui vous inspire pour produire votre musique ?
Alors... peut-être pas vraiment. En tout cas, s'il y a eu des inspirations, on dit souvent que la musique de Treasure Island fait un petit peu dessin animé. Je ne sais pas si vous avez pu l'écouter, mais il y a des côtés un petit peu marrants des fois. Et alors, s'il y a des influences de manga, bon, alors c'est ceux que j'ai cités précédemment. Pour Kanako, je ne sais pas. Tu te sens influencé par les mangas, toi, quoi, dans la musique ?
Je ne me sens pas vraiment, mais comme manga, c'est vraiment là, depuis que j'étais petite. Donc, forcément, peut-être, il y a une influence.
Est-ce que vous avez déjà collaboré avec un mangaka dans l'un de vos projets ?
Non.
Le clip vidéo de Disparate Tongue ressemble à Minecraft. Et est-ce que vous êtes des joueurs ?
Alors, on n'est pas des joueurs, mais personnellement, j'apprécie beaucoup le jeu. J'adore le concept et puis comment c'est fait. Alors le clip de Desperate Tongues, c'est moi qui l'ai fait, c'est de l'animation avec les outils les plus primitifs à ma disposition sur ordinateur. Donc c'est fait image par image. Alors peut-être que c'est ça qui rappelle le côté bloc de construction de Minecraft un petit peu. J'ai vraiment fait des images avec des petits cubes, des petites figures géométriques et je les ai animées comme ça après.
Dans tout ce que vous avez produit, c'est quoi votre chanson préférée ?
Pour moi, Treasure Island de Treasure Island.
C'est difficile parce qu'on a fait beaucoup de choses, mais peut-être Escape Island de Treasure Island. C'est une chanson qu'on a beaucoup jouée en concert et à chaque fois qui était très différente. C'est une version avec une partie très instrumentale et souvent qu'on faisait durer assez longtemps. Donc c'est peut-être celle que je préfère.
Kanako, vous êtes productrice de musique dans les différents projets avec Yann, Treasure Island et Yama-san. Mais vous êtes aussi créatrice d'objets et de décorations et de bijoux. C'est bien cela ? Est-ce que vous trouvez l'influence japonaise dans vos créations ?
Oui. Avant, je faisais des sandales traditionnelles japonaises en tissu. Et maintenant, c'est... plutôt des petits accessoires comme bracelets et colliers, petites pochettes, et qui ne sont pas traditionnellement japonais, mais inspirés par la culture japonaise traditionnelle, notamment au niveau des motifs.
Kanako, combien de temps êtes-vous restée au Japon à Osaka ? qu'est-ce qui vous a motivé à venir vous installer en France et surtout à Mara? Pourquoi Mara?
On avait décidé de venir en France ensemble et pour moi, depuis que j'étais petite, je voulais vivre à la campagne. Et quand on a commencé à chercher une maison, on a trouvé Mara, la maison à Mara, et le coup de cœur.
Et il faut dire que Kanako, elle est née à Osaka. Alors, elle a commencé toute sa vie là-bas.
En Agonville, oui.
Après, elle a déménagé à Kobe, qui n'est pas très loin. Et nous, on s'est rencontrés à Kyoto, qui n'est aussi pas très loin. Et on a vécu à Osaka. Mais alors, combien de temps? Allez, au moins 20 ans.
Être japonais en France, ça fait quoi?
Parfois, je me sens isolée. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de Japonais, notamment à la pays dedans. Mais je suis contente de partager comme ça les cultures. Et,
Je pense que Kanako est souvent contente de voir que les Français, particulièrement, apprécient oui. beaucoup la culture japonaise, notamment les mangas, oui. les dessins animés.
Animés Norita.
Est-ce que vous aimez les sushis? Est-ce qu'il y en a qui mangent des sushis? Les nouilles, la ramen, ça vous dit quelque chose? Bon, voilà.
Qu'est-ce que vous préférez en France?
Bien sûr, nourriture. Mais en plus, les Français sont très différents. Même l'opposé du japonais. Et j'aime bien comment les Français sont honnêtes et naturels.
Et comment vous êtes-vous rencontrés avec Yann?
Il y a 16 ans, quand j'étais étudiante, j'ai vécu à Kyoto, à Guest House.
Dans une pension, on peut dire?
Oui. Il était un touriste et j'étais étudiante et on avait rencontré.
Thank you.
Qu'est-ce que vous avez écrit sur le tableau ?
J'ai écrit Kotodama.
Alors Kotodama, c'est un mot japonais qui est très important. C'est un concept très important au Japon qui est très spécial. Ça veut dire mot âme. Âme dans le sens, vous connaissez, un peu comme l'esprit, si on veut, d'une personne. Les Japonais pensent que les mots, ils ont un esprit, c'est-à-dire que des fois, ils ont un peu un pouvoir magique. Donc les Japonais, au quotidien, ils disent, ils utilisent beaucoup de mots. Des fois, c'est des choses anodines. Par exemple, quand on commence le repas, avant de manger, en France, on dit bon appétit. Au Japon,
itadakimasu.
Il y a plein de mots comme ça qui rythment un petit peu le quotidien. Et puis après, il y en a qui sont très rares, très spéciaux, qu'on dit dans des circonstances très spéciales. Est-ce que vous connaissez l'aïkido, par exemple ? C'est un art martial japonais. Et ben dans l'aïkido, normalement, on ne parle pas, sauf à certains moments. On dit des mots, alors on l'écrit. Hein. Il faut vraiment canaliser toute sa force. Et ces mots-là, on pense, ben les Japonais pensent qu'ils permettent d'accomplir un certain but.
Mais du coup, comment vous faites la musique ? Ça doit être compliqué, non ?
Ah !
Oui, c'est compliqué.
Alors la musique, en fait, c'est un spectacle. Et il y a une petite histoire. Moi, je suis un démon. Donc, je ne sais pas si vous avez vu dans la vidéo, je porte un masque, je suis costumé. Kanako, c'est une calligraphe qui cherche à entrer en contact avec ses ancêtres. Elle fait une sorte de cérémonie magique. Et puis, il y a quelque chose qui ne marche pas quelque part. Elle invoque un démon. Donc, moi, j'apparais. Alors, comment on fait la musique ? En fait, on contrôle différentes choses. On contrôle des synthétiseurs. Alors, ce n'est pas des synthés style Jean-Michel Jarre. Hein, c'est... des synthés qui font un peu des bruits, alors des fois ça fait comme des cris, donc il y en a un, bah, c'est la voix du démon, mais on ne les contrôle pas avec des claviers, hein, pas comme les synthés qu'on a l'habitude de voir dans un groupe de rock ou de pop par exemple. Là, c'est on les contrôle avec des gestes dans l'air, avec des capteurs infrarouges par exemple. Et Kanako, ce qu'elle fait, donc elle écrit à l'encre avec un pinceau sur un très grand papier, alors ça capte les sons, donc les frottements du pinceau sur le papier, et aussi les vibrations. Et ça, ça produit des sons, ça joue en fait, au lieu comme si on jouait sur un clavier. Mais là, on ne joue pas sur un clavier, on joue avec un papier, entre autres. Donc c'est assez spécial comme dispositif.
Comment vous apparaissiez, parce qu'on n'a pas vu sur... la vidéo, comment vous apparaissiez ?
Moi, dans le spectacle ?
Oui.
Alors, en fait, au début, je suis caché. Je suis sous un drap tout noir. C'est un petit peu symbolique. C'est comme si je n'étais pas là. C'est comme si j'étais dans le monde des esprits. Et puis, le rituel marche. Hop, j'apparais tout d'un coup. Et à la fin, je disparais de la même manière, sous le drap.
Est-ce qu'il faut de l'entraînement pour ça ?
Pour ce spectacle ? Oui. En fait, c'est exactement comme la calligraphie japonaise. La calligraphie japonaise, ça demande de la technique. Donc, par exemple, Kanako, elle a étudié la calligraphie. Elle a un diplôme de calligraphie japonaise. Il faut bien sûr savoir parler, lire et écrire le japonais. Sans ça, c'est un petit peu difficile. Et le spectacle, il est un petit peu basé autour de ça, en fait, de cette idée qu'il y a des techniques, etc. Mais tout repose sur l'instant. C'est une improvisation. Le calligraphe, il pense à ce qu'il va écrire, il se concentre très fort sur cette idée, en même temps qu'il essaie de faire le vide, de penser à rien d'autre. Et quand il commence, il n'y a pas de brouillon, il n'y a pas de première fois, c'est hop, on fait d'un coup, on dessine tout, et quand c'est fini, c'est fini. Alors des fois, on peut dire, ah, c'est un petit peu, c'est pas comme je voulais. Les Japonais pensent que la calligraphie, comme ça, représente un peu l'état d'esprit du calligraphe. Et je l'ai vu, Kanako, parfois, je sais qu'elle est un petit peu, par exemple, fatiguée ou stressée. Et la calligraphie n'est pas la même. Le spectacle, c'est un petit peu ça aussi. Oui. On essaie de contrôler un petit peu tout ce dispositif spécial. Et donc, à travers des gestes, et ben, les gestes, des fois, ils nous trahissent un petit peu nos sentiments. Des fois, ils sont un petit peu plus brusques qu'on voulait. Ou des fois, ils sont un petit peu trop timides, les gestes. Et donc, le dispositif, il est contrôlé vraiment aussi par nous-mêmes, finalement. Par nos émotions.
Et parce que en fait, quand vous avez écrit le mot, c'était l'écriture, elle était un peu longue pour écrire.
Et lente.
Oui, lente. Et en fait, donc, Est-ce que c'est pour vous appliquer plus, un peu plus ou si vous écrivez tout le temps comme ça?
C'était, je vais redire peut-être pour toi, Kanako. Est-ce que tu écris plus lentement lors de, du spectacle? Normalement, tu n'écrirais pas comme ça.
Non, normalement, ce n'est pas comme ça. C'est aussi pour faire la musique. Donc, pas exprès, j'ai fait parfois lentement ou je tape même. Et je pense que c'est pas juste calligraphie, plus musique, donc c'est plus intéressant.
Utilisez-vous la calligraphie ancienne ou moderne et pourquoi?
La calligraphie n'est ni ancienne ni moderne, elle est surtout personnelle. Il y a autant de calligraphies que, la, que de calligraphes. J'ai étudié la calligraphie et obtenu un diplôme, donc j'ai appris des techniques qui sont utilisées depuis des siècles.
Est-ce que la calligraphie est simple?
C'est simple, mais en même temps, c'est vraiment profond et difficile.
Si tu veux, je peux élaborer, Kanako. La calligraphie japonaise, comme c'est que de l'encre sur du papier, enfin, comme beaucoup de calligraphies, certainement, c'est très simple, en fait, c'est en noir et blanc. Donc on n'a pas le choix d'autres couleurs. Et en fait, tout repose sur des détails, des nuances. Donc on doit suivre ces techniques, il y a une façon de faire. Mais en même temps, il faut essayer de faire quelque chose de très personnel. Enfin, on essaye d'arriver à quelque chose de personnel. Donc c'est un petit peu des contradictions parfois. Mais c'est surtout tous ces détails qui font que c'est... Moi, je considère ça comme assez complexe finalement.
Au Japon, il y a le hiragana, le katakana et le romaji. Lequel préférez-vous?
Petite précision, alors, le romaji, en fait, c'est juste la transcription, enfin, c'est l'alphabet européen, si on veut, ou l'alphabet occidental. Du coup, c'est pas vraiment japonais. Je pense que peut-être la question voulait dire donc hiragana, katakana et kanji, qui sont les trois types d'écriture japonaise. Alors, on a besoin des trois pour écrire en japonais. Personnellement, je préfère les kanji, qui sont des caractères assez complexes. Par exemple, ce que Kanako a écrit, ce dont on parlait tout à l'heure, kotodama, c'est un kanji.
Et moi, de hiragana, car il a été mis en place par des femmes il y a plus de 1000 ans. On l'appelait même onnamoji, c'est-à-dire lettre de femme.
Donc c'est un alphabet qui a été un peu inventé ou en tout cas mis en place par les femmes au Japon. Avant, il n'existait pas jusqu'à une certaine époque.
Est-ce que vous vous rappelez de tous vos musiques?
Non, justement, en préparation de cette interview, je me suis replongé un peu dans des choses que j'avais pu partager peut-être en amont de l'interview. Et bah, l'autre jour, je me suis fait plaisir, j'ai écouté des trucs et redécouvert des choses qui étaient enregistrées il y a longtemps. Alors, je ne sais pas si vous avez tout écouté, peut-être pas, parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a des musiques qui sont un peu abrasives, on va dire un petit peu bruitistes. Il y a des choses qui sont un peu plus faciles à écouter. Treasure Island, c'est un petit peu plus facile, même s'il y a des moments un peu plus durs. Donc, c'est pas toujours j'ai pas toujours envie d'écouter certaines choses. Mais l'autre jour, du coup, je me suis replongé dans tout ça. Mais je me souviens pas de tout, non.
Est-ce que, étant étranger, on peut venir vivre au Japon?
C'est peut-être plus une question pour moi, alors. C'est compliqué, les choses, elles changent beaucoup. Hein. C'est des décisions politiques, parfois, ce genre de choses. Il y a quelques années, il y a eu le Covid, et ça a bloqué beaucoup d'entrées de personnes. Même nous, Kanako est japonaise. Moi, je ne suis pas japonais, mais comme je suis marié à Kanako, normalement, je n'ai pas besoin de visa ou quelque chose. Mais à ce moment-là, tout d'un coup, il fallait obtenir des documents. Alors, ça change un petit peu selon les moments. Normalement, ce n'est pas difficile. Quand on est français, en tout cas, on peut aller en touriste au Japon. Donc, on peut rester 3 mois. C'est la durée maximum. Si on veut rester plus longtemps, il faut soit avoir un travail. Et dans ce cas-là, le travail nous donne des documents qui nous permettent de rester. Ou alors, il faut être très riche. Ou alors, il faut avoir une situation spéciale, particulière. Voilà. Mais c'est accessible, en tout cas. Et pour y vivre, moi j'y ai vécu longtemps, c'est très agréable. C'est déroutant, tout est très différent, mais par exemple, c'est un pays qui est très sûr. Il n'y a presque pas de crime, il n'y a pas de délinquance, donc c'est assez facile d'y vivre de ce point de vue-là. Les Japonais sont assez ouverts aux étrangers, ils sont, même si souvent ils sont déroutés par nos habitudes ou nos façons de faire, mais ils sont très accueillants. Donc peut-être qu'il y a des pays où ce n'est pas le cas, en tout cas le Japon, c'est assez facile. Je recommanderais à ceux qui sont intéressés d'y aller d'abord en touriste, ce qui n'était pas mon cas. Moi, j'y suis allé tout de suite pour vivre il y a 20 ans.
Merci à Yann Bern et Kanako Mitsuzumi pour leur temps et leur art. Merci à Anne-Catherine Hoss de la médiathèque et à l'équipe de Radio Super pour l'aider à la présentation de l'interview. C'était le Club Manga et on se retrouve bientôt sur les ondes.
La radio est super sur Radio Super.
Radio Saiko.
Radio, sugoi desu ne.